Ulrich, la semaine dernière, a abordé le sujet de l'Église, un sujet tellement important. Il nous a encouragé à être une Église en marche, à être une Église qui soit consciente d'être remplie de l'Esprit, de la puissance du Très-Haut. Une Église qui est appelée à rechercher l'unité, à s'unir pour, dans son aspiration et dans son action. Si nous sommes regroupés ici ce matin, pour la plupart d'entre nous, pour la majorité, c'est parce que nous avons pris conscience de la richesse et de la puissance du message de l'Évangile. Le message de l'Évangile que Jésus a prêché et qui a été prêché ensuite par ses disciples et par les apôtres, c'était un message de libération, un message de délivrance, un message de libération de la religion, un message qui libérait de cette obligation de performance, d'accomplir des œuvres pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé par Dieu, d'accomplir des œuvres pour pouvoir avoir le salut, pour ouvrir les portes du paradis. C'était un message qui nous libérait de la culpabilité, qui peut nous étreindre lorsque nous sommes dans l'échec, lorsque nous n'avons pas réussi à accomplir toute la volonté de Dieu et que la culpabilité vient nous saisir. Le message de l'Évangile nous libère de cela. Parce que le message de l'Évangile, c'est le message d'un Dieu qui vient vers nous, d'un Dieu qui vient pour nous accompagner, qui vient pour nous parler, qui vient pour orienter notre vie, mais qui vient pour être avec nous et qui nous accompagne dans notre faiblesse, pour nous donner les ressources, les forces dont nous avons besoin. C'est un Dieu qui vient dire « Le salut s'obtient par grâce. Tu es sauvé parce que Dieu a décidé que tu étais sauvé. » Et le salut, c'est un don, c'est un cadeau. Les œuvres viennent après. Les œuvres, elles sont déterminées par notre envie de bénir Dieu, de glorifier Dieu au travers de nos paroles, de notre comportement en entier. Mais ce message-là, ce message de l'Évangile que nous avons reçu pour la plupart d'entre nous, c'est un message de libération. C'est un message auquel nous sommes appelés à adhérer volontairement. C'est un message d'amour, de paix, de fraternité que Jésus et les apôtres ont proclamé, mais qu'ils n'ont jamais imposé. Et si on adhère librement à l'Évangile, il y a une conséquence logique à cela, c'est qu'on est amené à adhérer librement à l'Église. L'Église n'a rien à voir avec l'image que les gens qui nous entourent ont la plupart du temps. Parce que quand on entend les gens parler, que ce soit dans les médias ou même autour de nous, l'Église résonne avec ou rime avec religion. Et pour nos contemporains, en particulier en France, religion, ça rime avec aliénation, ça rime avec contrôle des consciences. Mais si on comprend vraiment ce qu'est l'Église et que l'Église est le rassemblement de ceux qui ont accepté volontairement l'Évangile, à ce moment-là, on voit que l'Église n'a rien à voir avec l'image que les gens se font la plupart du temps de l'Église. Si on adhère librement à l'Évangile, on adhère librement à l'Église. Mais si ce choix personnel de recevoir Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, est absolument nécessaire, si cette démarche individuelle est nécessaire, s'il faut que nous voulions cette appartenance à l'Église, que ce soit une décision personnelle, il se trouve aussi que nous vivons dans une société qui est profondément marquée par l'individualisme. L'individualisme caractérise notre société occidentale. Nous vivons dans un monde où le jeu prime sur le nous. On est tous comme des Robinsons sur notre île, avec un périmètre qui est limité au jeu. Et c'est ce qui rend difficile le passage au nous. La préoccupation principale de l'individu, aujourd'hui, c'est de rechercher son épanouissement personnel. Et rien, absolument rien, ne doit venir contrarier cet épanouissement personnel. Il y a un but que nous donnons, c'est de vivre dans un état de satisfaction permanent. Et rien ne doit venir contrarier cette satisfaction que je dois ressentir à chaque moment. C'est ce qui nous est proposé. On est dans une société de loisirs. On est dans une société de consommation. Et d'ailleurs, il y a une marque qui a bien compris ça parce que toute la gamme de ces produits, ça commence par « je », en « I » en anglais. Mais vous avez « iWatch », la montre « iWatch », je regarde l'heure qu'il est. Vous avez le « iPhone », je téléphone. Vous avez le « iPad », je bloc-note. Vous avez le « iPod », iPod Touch », je coquille, c'est ça ? Je coquille une touche. Aïe, 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 vous voyez, aïe, aïe, aïe. C'est d'ailleurs c'est ce que j'ai dit quand mes enfants m'ont dit « Papa, je veux un iPod ». Aïe, aïe, aïe. Mais vous voyez, l'angle qui est abordé pour pouvoir nous faire envie. Le bonheur, c'est ce que je fais, c'est ce que j'accomplis. Et le problème, c'est que les relations avec les autres demandent toujours une part d'effort, une part de renoncement. Se retrouver avec les autres fait appel à ma volonté et m'amène à faire un effort, à renoncer à quelque chose. Et en cela, la relation avec les autres peut être vécue comme un obstacle à mon épanouissement personnel. Et le service également dans l'Église, le service qui réclame de mon temps, le service qui réclame de mon énergie peut être envisagé comme un investissement qui s'oppose à mes désirs, à ce que j'ai envie de faire, à mes envies. Alors évidemment, comme on fonctionne sur le mode de l'envie beaucoup, eh ben, si je n'ai pas envie, ben, je ne fais pas. C'est la façon de penser qui nous environne. Et malheureusement, je pense que parce que nous baignons là-dedans, en tant que chrétiens, nous sommes influencés par cette façon de vivre les choses et d'envisager les choses. Et même d'envisager notre vie chrétienne, notre engagement chrétien. On vient dans ce moment louange de parler des forteresses et des remparts qui doivent tomber. Moi, je pense que l'individualisme, c'est une forteresse qui doit tomber. C'est un rempart qui doit s'écrouler. Et mon vœu le plus cher ce matin, c'est que ce partage qu'on va avoir ensemble puisse faire écrouler cette forteresse. Alors j'y vais avec la foi et je me dis que c'est le jour où le rempart va s'écrouler, mais quelque chose me dit que ça va plutôt être Jéricho et qu'il va falloir y revenir et faire le tour de ce rempart, de cette forteresse avant qu'elle s'écroule, parce qu'on est tellement imprégné de ça. Je, au lieu de nous. À tel point que l'Église a quelquefois tendance à devenir optionnelle. Et on entend de plus en plus ce genre de langage. Où vous avez des gens qui disent « Je crois en Jésus, pas de problème, je crois en son message, je crois qu'il est le sauveur, je crois qu'il est mort à la croix pour moi, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de me retrouver avec les autres. Ce qui importe, c'est ma relation personnelle avec Dieu. » Alors la fréquentation régulière d'une église, ce n'est pas absolument nécessaire, ce n'est pas un besoin capital pour moi. Je peux louer chez moi en mettant des CD. Je peux adorer chez moi en étant tout seul dans mon salon, mais j'ai juste besoin d'une guitare. Je peux m'édifier, je peux m'instruire en écoutant ou en regardant des prédications sur Internet. Tout ça, c'est possible, on a accès facilement à tout cela. Il y a des bonnes choses à prendre, je ne suis pas en train de condamner. Hein. Mais on peut être amené à penser cela. Et c'est un langage, et c'est une attitude, un comportement qui est de plus en plus présent aujourd'hui. Et quelquefois même, c'est théorisé. En disant, je suis l'Église. Et l'Église est là où je suis. Et ça prend même quelquefois valeur d'exhortation. Tu es l'Église sur ton lieu de travail. Tu es l'Église dans ta famille. Tu es l'Église dans la rue. Tu es l'Église chez toi. Alors évidemment, ça peut paraître vraiment très encourageant et ça peut paraître là comme une exhortation, mais je crois que ce raisonnement-là, est largement influencé par le contexte individualiste dans lequel nous baignons. Et que ce raisonnement n'a pas de fondation biblique. C'est une pensée, c'est une formulation qui est de plus en plus en vogue. Et très sincèrement, on n'est pas loin de l'erreur doctrinale, si on n'a pas déjà mis un pied dedans. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on prenne le temps de s'intéresser à ça. Si on veut que cette forteresse-là disparaisse, il faut qu'on revienne au texte biblique. Il faut qu'on se pose cette question, mais pourquoi l'Église ? Pourquoi l'Église si ce qui compte, c'est d'abord ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire. Si l'Église, je n'en ai pas forcément besoin, pourquoi est-ce qu'il y en a question dans la Bible ? Pourquoi est-ce que le mot Église apparaît plus de 200 fois dans le Nouveau Testament ? Pourquoi l'Église ? Première réponse à cette question, c'est l'Église existe parce que Dieu a voulu que les croyants se rassemblent. Si vous êtes engagé, si vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu, ce que je suis en train de dire là, ça devrait suffire. Dieu a prévu l'Église. Jésus a fondé l'Église. Je bâtirai mon Église. C'est ce texte que Ulrich a partagé avec nous la semaine dernière. Si la parole de Dieu fait autorité sur votre vie, si vous l'acceptez comme telle, simplement le fait de savoir que Dieu veut que nous nous rassemblions, ça suffit. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Revenons au sens du mot Église. Ulrich avait commencé à l'expliquer la semaine dernière. Le mot grec qui est utilisé et que nous traduisons par église, c'est le mot « ecclésia ». En fait, le mot « ecclésia », ça veut dire « assemblée ». Lorsque Jésus dit « je bâtirai mon église », pour nous, on voit tout de suite un truc religieux. Sauf que le sens, c'est « je bâtirai mon assemblée ». Et tout de suite, ça prend un autre sens. Le mot « ecclésia », il est forgé à partir du verbe « ekkaleo », qui signifie littéralement « appeler au dehors ». Le préfixe « ex », c'est ce qui correspond à notre préfixe à nous « ex ». Extérieur, extradé, exfiltré, tout, on va à l'extérieur, ex. Et kaleo, c'est appeler. Donc appeler au dehors. Et ce mot-là correspond à une réalité très précise dans la Grèce ancienne, dans la Grèce antique, puisque le mot ecclésia désignait l'assemblée des citoyens qui étaient appelés à se réunir périodiquement, régulièrement, pour discuter des affaires de la cité. Il y a eu une période dans la Grèce antique où, avant que les grands empires ne viennent s'installer dans la région de la Méditerranée, où les villes s'administraient par elles-mêmes. Elles étaient autonomes. Et les citoyens de cette ville se rassemblaient périodiquement pour choisir les magistrats, pour décider du montant de l'impôt, pour voter les lois, enfin toutes ces choses qui étaient nécessaires à l'administration de la ville. Et il y avait des personnes qu'on appelait des héros, dont la fonction était d'appeler les citoyens à sortir de leur maison pour venir assister à l'assemblée. On arrêtait les activités en cours. Lorsque le héros passait dans la ville, dans les rues, dans la ville, et qu'il voyait un marchand, un commerçant, il lui disait « Maintenant, tu arrêtes, arrête là de faire ton commerce, c'est l'heure, c'est le moment d'aller à l'assemblée. » Lorsqu'il croisait un philosophe qui était en train de donner un cours de philosophie à d'autres personnes, il disait « C'est plus le temps du cours, maintenant tu arrêtes et tu viens à l'assemblée. » On va ensemble se réunir pour le bien de la cité. Quelquefois même, les citoyens étaient convoqués au son de la trompette pour être sûr que tous les citoyens qui devaient aller à l'assemblée entendent le moment de la convocation. On allumait même un grand feu pour que les citoyens qui travaillaient dans les champs et qui n'entendaient peut-être pas forcément le son de la trompette puissent voir que cette lueur qui apparaissait était le signal de l'assemblée, le moment de se réunir. Le sens du mot Ecclésia révèle le désir que Dieu a de voir ses enfants se rassembler. Et c'était déjà le cas avec le peuple d'Israël. Dieu a ordonné dans la loi que les Israélites se rassemblent périodiquement. Et il a institué 6 fêtes pour ça. Vous pourrez aller voir dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, elles sont listées. Vous allez à la fête de Pâques au printemps, vous allez à la fête du pain sans levain qui suit la fête de Pâques, qui dure 7 jours. Vous avez 50 jours plus tard la Pentecôte, ça tombe à chaque fois vers mai-juin. Vous avez la fête des tentes en septembre-octobre, qui dure 7 jours aussi. Et dans cette même période, vous avez la fête des trompettes et le jour des expiations, le jour du grand pardon. Et puis, il y avait aussi, en plus de cela, et dans Lévitique, au chapitre 23, verset 2, il est dit que les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes convocations. De saintes convocations, cette expression-là, elle est intéressante. Pour chacune de ces fêtes, il y avait une sainte convocation. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui demande aux Israélites de cesser leurs occupations et de se rassembler régulièrement, plusieurs fois par an. Et le sabbat, le septième jour, est compris dans ces saintes convocations. Dieu ne voulait pas simplement que ces assemblées soient 6 fois par an, mais il voulait que ce soit toutes les semaines. Il voulait que les Israélites se rassemblent pour lui rendre un culte. Et Dieu convoque un peuple, il ne convoque pas des individus, il convoque un peuple. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le mot qui désigne le peuple d'Israël comme assemblée, c'est le mot « kaal ». Et lorsque l'Ancien Testament a été traduit en grec, pour les Juifs qui parlaient le grec, quel est le mot qui a été choisi pour désigner le peuple d'Israël assemblé ? C'est le mot « ecclésia ». Réunion, rassemblement, être ensemble. De la même manière, quand on se penche sur le Nouveau Testament, les premiers disciples à Jérusalem se rassemblaient régulièrement. Je crois que ça fait partie des textes qu'on a lus déjà la semaine dernière. Mais voilà ce qu'il est dit des disciples. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jacques, Jean, etc. Verset suivant, tous d'un commun accord, ils persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils se tenaient dans ce lieu d'habitude, régulièrement, et ils persévéraient. Ça, ce sont deux termes qui indiquent que c'était des réunions régulières. Ils répondent à une convocation. Et un peu plus loin, en Actes chapitre 2, les versets 42 et 46, il nous est dit que les premiers disciples qui constituent l'Église, l'Assemblée de Jérusalem, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la lecture de la Bible, dans la prédication, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et verset 46, chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Il y a vraiment cette idée de se retrouver ensemble et de le faire de manière régulière. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, ça, ce sont des choses qu'on ne peut faire que quand on est ensemble. Ce sont des activités qui sont possibles quand on est réunis, ça. Et tout au long des actes, et vous pourrez voir ça chez vous en reprenant la lecture du livre des actes, on voit que les personnes qui acceptent l'évangile se rassemblent. Ils écoutent la prédication ensemble. Ils partagent leurs expériences ensemble. Ils réfléchissent et ils prennent des décisions ensemble. Ils prient ensemble. L'Église, c'est le rassemblement des chrétiens. Nous sommes destinés à vivre notre foi avec les autres croyants, pas de façon individuelle et isolée. Un chrétien n'existe pas vraiment indépendamment de la communauté qu'il forme avec les autres chrétiens. L'Église, c'est la réponse à un appel de Dieu, à une convocation de Dieu, qui demande aux chrétiens de mettre des temps à part pour qu'ils puissent se rencontrer et se rassembler régulièrement. Pour un chrétien, faire partie de l'Église, ce n'est pas une question d'envie, ce n'est pas une question de choix personnel, ça fait partie de son engagement à mettre la parole de Dieu en pratique. Il est donc incorrect de dire « je suis l'Église ». Je trouve que c'est même très présomptueux de dire « je suis l'Église ». C'est un peu comme si moi je disais « je suis la France ». Toi, Xavier, tu es la France ? Je suis la France. Et peut-être que vous pourriez vous dire, et moi alors ? vous non plus. Enfin, si Daniel il dit, et moi alors ? Et je dis, non, tu n'es pas la France. Nous sommes la France. La France, c'est une réalité collective. Et c'est très présomptueux et déplacé que quelqu'un dise, je suis la France. Ou je suis Angers, si on veut prendre une réalité qui nous regroupe tous ensemble. Même si on a habité pendant 4 ou 5 ans à Limoges, on peut dire « je suis un Angevin si j'habite à Angers ». On ne va pas lui dire « t'es un Limougeot » à Ulrich. On est Angers tous ensemble et on est l'Église tout ensemble. Donc c'est « je ne suis pas l'Église ». Je ne peux pas dire « je suis l'Église », mais nous pouvons dire « nous sommes l'Église ». Je ne peux pas dire « tu es l'Église », mais nous sommes l'Église. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. On voit que c'est ce qui correspond à la réalité biblique. Imaginez un peu, je vais reprendre une image qui concerne le foot. Ça parle pas mal. Et il y a tellement de parallèles à faire. Ah, ça y est, j'avais perdu Daniel, mais là, je l'ai retrouvé. Imaginez là, Antoine Griezmann, par exemple. Antoine Griezmann qui, au moment d'aller sur le terrain avec les autres joueurs pour s'entraîner ou pour disputer un match de qualification pour la Coupe du Monde, décide d'aller s'entraîner tout seul ailleurs. Et les joueurs se rassemblent, et puis Griezmann, il prend une autre route. Bon, les autres, ils ne vont pas comprendre. Vous avez Giroud, Pogba, il dit, Antoine, tu vas où, là ? Là, c'est le moment, c'est l'heure. Il faut qu'on aille s'entraîner. Il faut qu'on se retrouve ensemble. Il faut qu'on y aille ensemble. Si tu t'en vas, on va pas pouvoir bénéficier de ce que tu peux nous apporter dans l'équipe. Ton expérience, ta connaissance, ton énergie, ta force, ton talent. Et puis, Griezmann qui dit non. Non, je pense que je peux m'entraîner tout seul. Je peux mieux le faire si je suis tout seul. Alors, vous imaginez un peu l'entraîneur, le sélectionneur, Didier Deschamps, dire, attends Antoine, ça va pas là. Tu as signé un contrat. Tu t'es engagé à faire partie de l'équipe. Alors, ça veut dire qu'on doit travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Ouais, mais en fait, c'est juste un papier. J'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie, puis je pense que j'ai pas besoin des autres pour pouvoir atteindre mes objectifs, atteindre les objectifs. Et puis tu sais, t'inquiète pas, je sais quels sont vos objectifs, là, de gagner, de remporter des victoires, mais moi, de mon côté, je vais atteindre les mêmes. Je vais avoir les mêmes objectifs mais je vais le faire sans vous. Je pense que je vais mieux y arriver comme ça. Parce que j'ai envie de faire comme ça. Parce que ça me correspond plus. Je vais être plus moi-même. Satisfaction personnelle. Au niveau des résultats, on n'a pas trop d'illusions à se faire entre ce qu'une équipe de foot ensemble peut faire et un joueur isolé peut faire. Même s'il va s'entraîner avec la panoplie, le maillot du footballeur, même s'il est en bleu et qu'il est tout seul dans le stade d'à côté, est-ce qu'il peut dire « je suis l'équipe de France » ? Non, il ne peut pas dire « je suis l'équipe de France ». Nous sommes l'équipe de France. On y va ensemble pour former cette équipe et pour pouvoir atteindre nos objectifs. Un footballeur n'existe pas indépendamment d'une équipe de foot. C'est comme un soldat qui dirait « je suis l'armée ». C'est comme un flocon qui dirait « je suis la neige ». Ouais, j'ai plus rien qui me vient à l'esprit, mais... Un flocon, vous avez vu comment c'est léger, comment... Mais réuni à des centaines, des milliers de flocons, un flocon dans ma main, si je le lance à Arlette, là, il va se perdre. Par contre, des milliers de flocons ensemble, bam ! Oh, Arlette, elle va le sentir. Et c'est ça. L'Église, elle existe pour ça. Faire partie d'une Église locale est compris dans l'engagement que nous prenons lorsque nous avons pris le baptême. Nous sommes une pierre de l'édifice. Nous sommes un membre du corps. C'est pour ça que c'est également incorrect de dire que je n'ai pas besoin de l'Église. Et la Bible dit même le contraire. Souvenez-vous de ce que Paul dit lorsqu'il parle de l'image du corps pour parler de l'Église dans 1 Corinthiens 12, versets 20 et 21. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. Et il dit que les plusieurs parties, les membres, ce sont les chrétiens. Et le corps, c'est l'Église. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Il ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus au pied « je n'ai pas besoin de vous ». La tête ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Je ne peux pas vous dire « je n'ai pas besoin de vous ». Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de vous. On ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de vous ». Impossible de dire « je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de vous ». Si vous devez retenir quelque chose en partant de ce lieu ce matin, que ça fasse partie de cela. C'est très étonnant que l'importance de l'Église soit minimisée. Alors qu'il y a des pays où les chrétiens aimeraient se réunir, mais ils ne le peuvent pas. Parce que c'est interdit pour eux d'être chrétiens, interdit pour eux de se rassembler. Alors on a des moyens technologiques extraordinaires aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, au travers du satellite, d'Internet, qui permettent à des personnes de recevoir le message de l'Évangile dans des pays où ils n'ont pas le droit d'être à l'écoute, ils n'ont pas le droit de recevoir la foi chrétienne. Et ces gens-là, ils peuvent se convertir devant leur ordinateur. Mais il y a quelque chose profondément qui leur manque. C'est de pouvoir se réunir et de pouvoir partager leur foi, de pouvoir s'encourager en trouvant d'autres personnes qui ont fait la même démarche volontaire d'adhésion au message de l'Évangile. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour le comprendre, pour voir cela. Il y a quelque temps, il y a une famille qui est venue là, deux personnes qui sont venues là, qui se sont converties dans un pays où il n'y a pas le droit d'être chrétien. Et alors qu'elles ont eu l'occasion de faire ce voyage en France, elles ont sauté sur l'occasion pour venir dans une église. Et moi, ce qui m'a touché lorsqu'elles sont venues en ce lieu le dimanche matin, c'est qu'elles pleuraient, elles étaient en larmes. Parce que ce qu'elles voyaient, ce qu'elles touchaient simplement du bout du doigt devant leur ordinateur ou devant leur télé, là maintenant, ils étaient immergés dedans, ils le vivaient. Et combien ça leur apportait ? Ils ne pouvaient pas le vivre, et là, ils le vivaient enfin. Ils partageaient la louange, ils partageaient l'adoration, ils partageaient ce moment autour de la parole. Et ils avaient les joues, le visage inondé de larmes. C'était tellement touchant. Et nous, on s'offre le luxe d'être blasés, alors que c'est un privilège immense de nous retrouver ensemble, de bénéficier de ce que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est que l'Église existe pour que les croyants s'influencent les uns les autres. Ces nouvelles technologies dont nous venons de parler fournissent d'extraordinaires possibilités. On vient d'en évoquer une. Ça nous permet aussi de pouvoir faire le culte en même temps à Angers et à Cholet, qui se trouvent à 60 km de là. Donc ça favorise énormément le partage de l'Évangile. Et lorsque les cultes seront aussi mis en vidéo sur le site, ça permettra aux personnes qui ne connaissent pas les églises évangéliques d'avoir un premier aperçu. Ce sera comme une espèce de sas. Parce que comme les églises protestantes évangéliques ne sont pas tellement connues en France, il y a une espèce de méfiance un peu naturelle qui est là, qu'on peut comprendre. Mais ils vont avoir la possibilité de voir ce qui est dit et ce qui est fait un peu dans le cadre du culte. Donc ça, ce sont des possibilités extraordinaires dont on peut bénéficier aujourd'hui. Mais il y a quelque chose quand même qu'il faut noter, c'est que toutes ces nouvelles technologies, elles créent l'illusion de la relation, alors qu'elles ne sont que des instruments de communication. Et il y a une différence et une nuance à faire entre communication et relation. Parce qu'une relation, ça se traduit pleinement dans le cadre d'un contact direct qu'on a ensemble, dans lequel sont impliqués nos regards, le ton de notre voix, notre gestuelle, même l'environnement dans lequel nous sommes. Et le contact direct, ce n'est pas simplement communiquer, mais c'est aussi transmettre quelque chose. Les êtres humains sont faits pour vivre ensemble. Ce sont des êtres relationnels, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Alors ça va faire écho à certaines choses qui ont été partagées sur les deux derniers samedis dans le cadre du groupe de jeunesse. Donc je n'ai pas copié, parce que j'avais déjà préparé le message, mais c'est même encourageant quand ça se passe comme ça. Donc l'Église a été voulue par Jésus pour que ses disciples aient des relations, aient des contacts les uns avec les autres. Parce que le développement spirituel passe par le partage, passe par l'échange, passe par le contact réel. On se fait généralement un point d'honneur à réfléchir par soi-même, à savoir prendre ses décisions par soi-même. Mais en réalité, nous sommes constamment sous influence, constamment. Le collège m'influence, le lycée m'influence, la fac m'influence, mon lieu de travail m'influence, mes amis m'influencent. On est constamment sous influence. Et ce sont forcément les gens qui sont les plus proches de nous, que nous fréquentons le plus régulièrement, qui auront le plus d'influence sur nous. Et selon les statistiques, il y a des études qui ont été faites là-dessus, les 5 personnes les plus proches de nous déterminent notre façon de penser, déterminent nos choix, déterminent nos goûts. Si je fréquente quelqu'un qui critique, il y a de fortes chances que je devienne quelqu'un qui critique. Si je fréquente quelqu'un qui est grossier, il y a de fortes chances que moi-même aussi je sois grossier. Si je fréquente quelqu'un qui boit, etc., etc. Par contre, si je fréquente quelqu'un qui prie, il y a de fortes chances que je devienne quelqu'un qui prie. Si je fréquente quelqu'un qui lit la Bible, il y a de fortes chances que moi aussi je devienne quelqu'un qui lise la Bible. Si je fréquente quelqu'un qui a le désir, la volonté d'appliquer la parole de Dieu dans sa propre vie, il y a de fortes chances que je sois influencé par cela et que je devienne à mon tour quelqu'un qui ait envie de vivre la Bible. Si je fréquente quelqu'un qui apporte la paix de paisible, j'augmente mes chances de devenir quelqu'un de paisible et de rayonner la paix autour de moi. Si je fréquente des gens qui m'encouragent, qui ont l'encouragement comme règle de vie, je vais devenir quelqu'un qui encourage. C'est mathématique, c'est ce que dit la Bible. Proverbe, chapitre 13, verset 20. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. La sagesse. C'est préférable quand même d'être soumis à de bonnes influences. Et l'Église nous extirpe du contexte habituel de critique, de jalousie, d'histoire, de grossièreté, et nous met en relation directe avec des gens qui partagent la même foi et les mêmes valeurs fondées sur l'Évangile que nous pouvons avoir, que nous avons fait le choix de recevoir. L'Église, elle nous permet d'être ensemble pour nous influencer les uns les autres. On se réunit pour s'encourager à prier, pour s'encourager à adorer, pour s'encourager à lire la Bible, pour s'encourager à servir. Ce sont des choses, très sincèrement, c'est souvent plus facile de faire tout ça quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Lire la Bible, prier. Allez, des fois, il faut se mettre des coups de pied au derrière. Hein. Mais quand on est ensemble et qu'on sait qu'on se réunit ensemble pour ça, pour lire la Bible, pour la méditer, pour partager autour d'un texte, qu'on se réunit et notre objectif, c'est prier. Et tout de suite, c'est plus facile. On s'influence les uns les autres et ça crée une émulation. On s'encourage. On se réunit pour s'exhorter les uns les autres. On se réunit pour prier les uns pour les autres, pour se corriger les uns les autres, pour se conseiller les uns les autres, pour partager des expériences les uns avec les autres. quand on est isolé, on ne peut pas bénéficier de ce vis-à-vis. Et on se fait des idées à ce moment-là. Et les idées qu'on se fait, ben, il n'y a personne pour les contredire. On est d'accord avec nous-mêmes. Hein. Je veux dire, on est en relation avec personne, et en particulier pas avec les gens qui sont dans l'Église. Ben oui, on est là, et puis nos pensées, elles tournent. On se conforte soi-même dans ce que l'on pense. Des fois même, on ressasse, on marine dans son jus. J'aime bien cette expression. Elle est très élégante, elle fait envie. On n'a personne pour nous remettre à notre place. Et il y a des moments, ben, moi comme vous, hein, on a besoin d'être mis à notre place. On a besoin d'entendre des choses. On a personne à qui rendre compte. Comment on peut grandir dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans notre foi? Comment est-ce qu'on peut permettre à Dieu, au Saint-Esprit, d'agir en nous si on n'a pas de vis-à-vis? Le contact avec les autres nous est utile pour nous rendre compte de nos points forts, de nos forces, mais aussi de nos faiblesses. Ça va nous encourager dans ce qu'on sait faire et ça va nous amener à nous améliorer dans ce qu'on sait moins faire, que ce soit au niveau de notre service, de notre engagement ou de notre caractère, de notre personnalité. Ça va nous permettre de développer nos points forts et de corriger nos points faibles. Les autres, c'est comme un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes, vraiment. Alors devant le miroir, on peut toujours avoir une maison dans sa salle de bain, pas mettre de miroir, hein, ou fermer les yeux devant le miroir. Mais le fait est que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est en vis-à-vis, en contact direct. Et les relations que nous tissons dans l'Église, elles nous permettent d'acquérir cette sagesse dont nous parlent les proverbes. Aujourd'hui, la connaissance, ce n'est pas un problème. La connaissance, ce n'est pas un problème. On va sur notre ordinateur, on va sur notre portable, et si j'ai besoin de savoir un truc, hop, je vais sur Wikipédia ou sur n'importe quel autre site qui va me donner toutes les informations dont j'ai besoin. Je peux apprendre à bricoler un truc, je ne savais pas ça une heure avant, mais je peux changer le joint de mon évier parce que je suis allé voir un tuto sur YouTube. La connaissance, ce n'est pas un problème. Des fois même, vous êtes invité chez des amis et avant de rentrer, avant de sonner, parce que vous savez que la personne, elle est un peu calée, je ne sais pas moi, en relations internationales, vous pouvez regarder sur relations internationales et vous avez toutes les infos pour pouvoir alimenter la conversation de la soirée. Ce n'est pas un problème, la connaissance. Par contre, la sagesse, ça ne s'apprend pas sur Wikipédia. Ce n'est pas les tutos sur YouTube qui vont nous aider à façonner notre caractère. Ce n'est pas Facebook qui va nous apprendre à cultiver des relations vraies, à cultiver des relations sincères, à cultiver des relations authentiques. Quand je vois l'Église qui est décrite dans les Actes et qui m'inspire énormément, j'aimerais partager cette inspiration avec vous. Quand je vois cette Église, je vois des chrétiens qui avancent ensemble. Je vois des chrétiens qui font face aux difficultés ensemble. Je vois des chrétiens qui se motivent ensemble. Ils se mobilisent ensemble pour atteindre leurs objectifs. Ils ont compris qu'ils avaient besoin les uns des autres, qu'ils étaient plus forts ensemble et que c'était plus efficace de concilier leur énergie, leur passion, leur talent. Il y a une histoire qui nous est racontée dans le livre des Actes, où c'est un moment de difficulté. Acte 4 nous raconte que Pierre et Jean sont arrêtés. Ils ont guéri le boiteux qui se trouvait à la porte du temple et ils passent une nuit en prison. Et après cette nuit en prison, ils comparaissent devant le tribunal. Les juges les menacent de peines sévères s'ils recommencent à prêcher. Ils disent, on vous interdit maintenant de prêcher le nom de Jésus, d'annoncer Jésus. Ils n'ont pas osé les condamner parce qu'ils ont vu qu'ils étaient populaires et que leur message avait de l'impact. Alors ils ont dit, mais attention, gare à vous. Là, on vous a mis en prison une nuit. Vous êtes passé devant le tribunal, mais la prochaine fois qu'on vous prend en train de prêcher l'évangile, gare à vous, ça va tomber, ça va faire mal. Qu'est-ce que vont faire Pierre et Jean après avoir reçu ces menaces ? Parce qu'ils sont relâchés, mais ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont partir chacun dans leur maison, s'isoler et demander à Dieu là, de les aider à surmonter cela ou... Non, en fait, il nous est dit qu'ils vont se réunir avec les autres chrétiens. Ils vont se rassembler avec les autres chrétiens. Ils vont constituer l'Église. Pour informer l'Église des menaces qui pèsent sur l'Église, il faut faire face à la réalité telle que les choses se présentent. Et je pense que pour eux, en même temps, ça a été très éprouvant de passer une nuit en prison, de passer devant un tribunal. on ne ressort pas de ce genre d'expérience comme ça, il n'y a pas les mains dans les poches, et on ne repart pas chez soi tranquille. Donc le fait, ça permet d'évacuer aussi. Et puis qu'est-ce qu'ils font dans la foulée? Ils prient ensemble. Ils se réunissent et ils prient ensemble. Ils ne repartent pas chacun de leur côté en se disant « comment on va faire maintenant ?» Non, ils restent unis pour affronter les menaces. Ils restent réunis pour prier. C'est ce qui nous est dit au verset 29 et 30 de acte 4. Et maintenant, voilà la prière qu'ils font monter. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Quand on se réunit, on gagne en assurance. On gagne en assurance pour le témoignage. Il y a une menace qui pèse sur notre tête, mais parce qu'on est unis et parce qu'on prie ensemble, parce qu'on on réunit nos énergies, on réunit notre passion, on va faire face à cette menace et on y va. On gagne en assurance dans le témoignage. Mais c'est vrai pour n'importe quel domaine, pour toutes les choses que nous partageons lorsque nous nous réunissons. On gagne en assurance dans l'adoration. Avant d'être chrétien, l'adoration, c'est quelque chose qui est un peu nouveau quand on commence à découvrir l'Évangile, d'adorer comme ça, cette relation avec Dieu, le fait de le magnifier, de le glorifier. Mais quand on est ensemble, quelque chose qu'on ne pratiquait pas du tout avant de venir à l'Église, on l'apprend et on gagne en assurance dans l'adoration, on gagne en assurance dans le service. C'est en étant ensemble, en nous serrant les coudes, en nous encourageant, que notre service devient de plus en plus efficace, de plus en plus performant. On gagne en assurance dans chaque domaine de notre vie, dans chaque domaine de notre engagement. C'est là que nous sommes influencés, quand on est réunis ensemble, pour grandir, pour mûrir, pour fortifier notre foi. Et c'est cette émulation, cet encouragement mutuel qui fait avancer l'Église. Et qu'on ait une Église en marche, une Église en marche. Plus que de réunions, nous avons besoin de relations. Une église en marche, c'est une église qui favorise les relations. C'est pour ça que, par exemple, il y a le groupe de jeunes. Ça permet à une catégorie de personnes, ici dans cette église, de se réunir. Non pas seulement de recevoir la parole, d'une manière qui soit plus adaptée aux préoccupations de cette tranche d'âge, mais aussi pour être en relation. Et c'est tellement important, notamment pour les étudiants qui viennent des quatre coins de France, qui viennent quelquefois même des dom-tom ou de l'étranger. On crée de la relation, on crée de la convivialité. C'est ce qui se passe aussi avec les réunions de femmes. Ça permet aux femmes de l'Église de se réunir, pas simplement aussi de partager un moment spirituel, mais un moment relationnel, dans lequel il se passe tellement de choses, dans lequel se transmettent tant de choses. Et il y a tellement de catégories de personnes, parce que si j'ai 45 ans et que je suis un homme, je ne peux pas aller au groupe de jeunes et je ne peux pas aller au groupe de femmes, au réunion de femmes. Donc ça veut dire qu'on est appelé à imaginer tout ce qui peut favoriser les relations. Et le tricot, pour ça, c'est très bon, parce que ça favorise les relations, ça fonctionne bien. Et les hommes peuvent y aller, exact. Il y a tellement de choses à imaginer, de choses à penser. Et si on veut avancer, il va falloir aller vers ce genre de choses. Ça ne peut fonctionner que dans la mesure où je réalise pour moi-même que j'ai besoin des relations avec les autres pour grandir, pour apprendre, pour gagner en assurance dans tous les domaines de ma vie. J'ai besoin des autres. Je ne peux pas dire « je n'ai pas besoin de toi ». Je ne peux pas dire « je n'ai pas besoin de vous ». Et quand bien même, vous sauriez plein de choses, vous auriez acquis plein de choses et que vous n'auriez pas besoin des autres, il est très probable à ce moment-là que les autres aient besoin de vous. Et que ce que vous avez acquis, ce dont vous êtes le porteur, puisse bénéficier aux autres et puisse contribuer à la croissance des autres. On va terminer avec ce texte qu'on lit dans la lettre adressée à Tite, chapitre 2, verset 14, qui nous dit « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne » et qui soit zélé pour faire de bonnes actions. Il s'est donné lui-même pour nous, pour faire de nous un peuple. Le plan du salut concerne des hommes et des femmes qui sont appelés à reconnaître Jésus, qui sont appelés à considérer que Jésus est mort pour eux, qui sont appelés à considérer que le Saint-Esprit peut agir en eux pour les changer, les transformer, les assister. Mais la vision de Dieu, ça a été toujours de rassembler ces hommes et ces femmes afin de créer les conditions de leur développement personnel, mais aussi de témoigner ensemble de l'amour de Dieu pour accomplir de bonnes actions. De bonnes actions les uns par rapport aux autres pour nous édifier, nous encourager, mais de bonnes actions aussi en étant cette lumière dont les gens qui nous entourent ont besoin. Vous savez, quand je lis l'Apocalypse, il y a quelque chose qui me frappe, c'est un de mes passages préférés, je pense, mais on voit des gens de tout peuple, de toute nation, qui sont ensemble. C'est un peuple qui est réuni. Il n'est pas question d'individus, il est question d'un peuple qui est formé par tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur. J'aurais compris ensemble, peut-être reprendre un chant. Il y a un rempart. Sincèrement, moi, je crois qu'il y a une forteresse qui doit tomber. Celle de l'individualisme. Ça, ce sera un frein. Un frein à notre engagement, un frein à notre service. Un frein même à notre progression, dans le sens où si je dis non, j'ai pas besoin. Ce qui est proposé là, ça n'existait pas avant. Pourquoi j'en aurais besoin maintenant? On a très bien fait sans. Mais il faut qu'on avance. On est en marche. Et être en marche, ça veut dire aller vers des choses nouvelles aussi. Créer de nouvelles conditions pour permettre cette relation. On a besoin de ça et je voudrais qu'on s'unisse dans la prière et qu'on demande au Seigneur de nous inspirer, de nous guider, de nous conduire. Que nous ne soyons pas un obstacle à former ce corps, à former ce rassemblement, cette assemblée. Parce que la tentation, c'est de faire du contact personnel avec les autres quelque chose d'optionnel. Je fais si j'ai le temps, je fais si j'ai envie. En fait, je n'ai pas trop besoin des autres dans ma vie spirituelle. Ce n'est pas vital, je m'en tire bien tout seul. Mais on est à côté de ce que nous dit la parole. À côté de ce que Dieu nous révèle pour qu'on avance. Je peux juste me contenter, et ça c'est tellement facile. Juste me contenter de fréquenter les personnes que je connais bien. Et si je vais systématiquement vers les personnes que je connais dans cette église, je me ferme à la possibilité d'être en relation avec les autres. Et il y a tant d'occasions à saisir pour rencontrer d'autres personnes qui vont nous apporter, mais auxquelles je peux apporter, pour que nous puissions nous édifier ensemble. On peut prier aussi parce que peut-être que les relations dans l'Église ne vous apportent pas une pleine satisfaction. Mais ce que je lis dans la Bible, c'est que les relations fraternelles, c'est le résultat de la persévérance. Ils persévéraient dans les relations fraternelles. Ça ne vient pas tout seul. C'est sûr que les autres sont appelés à aller vers nous, mais nous aussi, nous sommes appelés à aller vers eux. C'est une question de persévérance. Ça ne dépend pas que des autres. Moi aussi, j'ai une contribution à apporter. Alors, on va s'incliner, on vous invite à un moment de recueillement personnel. On a proclamé, on a prié tout à l'heure que les remparts tombent, que les forteresses tombent. Et ce serait bien que ce rempart de l'individualisme tombe. Si on veut avancer, il faut qu'il tombe. Il faut qu'on réalise qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. C'est une nécessité. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Le reste, si on pense le contraire, on s'illusionne. Alors Seigneur, envoie ton esprit pour nous désillusionner. Envoie ton esprit ce matin pour nous convaincre que nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. J'ai besoin de l'Église. C'est ce que dit ta parole. Seigneur, viens implanter en moi ce besoin. Viens faire tomber cette forteresse si je considère que je n'ai pas besoin. Oh Seigneur, pose ta main. Guide-nous jusqu'à l'autel, Seigneur, pour déposer ça devant toi. Parce qu'on n'en veut pas, on n'en veut plus. Parce qu'on veut se laisser inspirer et conduire par ta parole. Ce n'est pas un choix humain que nous faisons. On veut vraiment là se couler sur ce que tu dis, toi, sur ta parole. Et on a besoin les uns des autres. J'ai besoin. Ce n'est pas une question d'envie. Ce n'est pas une question de choix personnel. C'est une question de volonté et de désir d'appliquer la parole. Seigneur, viens nous unir par ton esprit, Seigneur. Viens déposer, Seigneur Dieu, ce besoin en nous. de nous attendre à toi, c'est vrai, Seigneur, mais de nous attendre aussi à ce que les autres peuvent nous apporter au travers de nos échanges. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aller au-delà du cercle de mes amis, de mes frères, de mes sœurs, de ma famille, des gens qui sont là, que je connais depuis des années, avec lesquels je me sens bien, ils m'ont tellement apporté. Mais Seigneur, apprends-moi, s'il te plaît, à aller au-delà. Apprends-moi à saluer les personnes que je ne connais pas. Apprends-moi à accueillir les personnes que je ne connais pas, même si c'est un visage que je ne connais pas. Aide-moi, Seigneur, à faire ce pas. À chaque fois là, que je me réunis avec les autres, Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi de dépasser ma timidité. Donne-moi de dépasser mes habitudes, Seigneur, s'il te plaît. Vois ceux qui posent cela devant toi. Vois ceux qui disent, je veux faire ça. J'ai jamais fait, c'est dur peut-être pour moi, mais je veux l'accomplir, je veux le faire parce que c'est ta volonté, c'est ce que tu désires. Oh Seigneur, apprends-nous à ne pas nous contenter de ce que nous avons. Donne-nous cet esprit de sacrifice dont nous avons besoin, Seigneur, simplement pour aller vers l'autre, simplement pour construire quelque chose qui soit solide, simplement pour apporter mon énergie, ma foi, mes talents, mes dons, afin qu'ils servent à ce que ton Église soit un édifice magnifique, puissant, fort, de ta force à toi. Aide-moi à persévérer dans les relations, Seigneur. J'y trouve pas mon compte. Mais je veux pas simplement m'attendre à ce que les autres peuvent m'apporter. Je veux y aller. Je veux aussi aller vers les autres. Je veux voir peut-être ce qui cloche en moi. Pourquoi j'arrive pas à faire des relations avec les autres? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est difficile? Montre-moi afin que tu accomplisses ce travail en moi. Montre-moi, Seigneur, afin que tu touches le plus profond de mon cœur et que je change là où j'ai besoin de changer. Afin d'avoir cette capacité de créer cette harmonie cette harmonie avec les autres, Seigneur. Vois notre cœur, nous sommes impuissants sans toi. Vois ces forteresses, on est influencés constamment par ce désir de satisfaction personnelle. Aide-nous à le dépasser, Seigneur. Nous voulons t'obéir, c'est notre souhait. Nous voulons te faire plaisir. Nous voulons faire les choses parce que nous t'aimons, parce que nous avons réalisé que c'est un peuple que tu t'es acquis. Et que tu as payé un prix tellement fort, ta mort à la croix, pour le pardon de nos fautes, de nos péchés, et la possibilité d'être dans la présence de Dieu. Alors nous voulons vivre cette parole, la vivre à 100%. Impliquer notre volonté, notre énergie, notre passion, pas simplement pour accomplir ce que nous avons envie de faire, mais pour accomplir ce que toi tu as envie que nous fassions. Souffle par ton esprit, Seigneur. Unis-nous, Seigneur Jésus. Que ne soyons pas que des individus qui viennent pour une réunion ce matin, mais que nous soyons un peuple uni dans la louange, un peuple uni dans l'adoration, un peuple uni dans la foi, un peuple qui t'ouvre son cœur afin que tu accomplisses quelque chose de profond et que nous puissions repartir victorieux avec un rempart qui est tombé. On tournera autant de fois qu'il faudra, mais on avancera parce qu'on n'a pas le choix, Seigneur Dieu, parce que ta volonté, c'est que l'Église avance. C'est que l'Église parvienne à atteindre les objectifs que tu lui as fixés. Jésus, Seigneur. Alléluia, Jésus.